Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre ce vendredi midi, vous êtes dans le Shaker. Bonjour Mathilde.
Bonjour Thomas.
On reçoit qui cette semaine?
On reçoit Monica Santos, cofondatrice du lieu culturel Zone I à Torrey-la-Rochette, venue nous présenter la programmation des expositions qui seront accueillies pour 2026.
On en parle donc au téléphone avec elle dans quelques minutes, mais comme d'habitude évidemment donc, un petit tour d'horizon de vos propositions culturelles sur le week-end et la semaine, avec tout d'abord donc la première journée citoyenne de Blois qui a lieu ce samedi. Elle se tiendra dans le quartier centre-ville avec plusieurs ateliers au choix, peinture, voyage photographique ou fabrication de boîtes à livres qui seront proposées. Le choix sera collectif entre les habitants et les habitantes et les associations. L'objectif de ces journées est de réfléchir ensemble pour améliorer le cadre de vie de la ville. Pour s'inscrire, c'est facile, rendez-vous sur le site de la ville de Blois.
La chapelle Saint-Jacques à Vendôme accueille ce samedi l'exposition 60 ans d'échange franco-allemand. Elle revient à travers archives et photographies sur les années d'échanges éducatifs et amicaux entre Saint-Joseph de Vendôme et Sainte-Élisabeth de Friedrichshafen. Elle retrace leurs liens durables entretenus à travers correspondances et rencontres. Les portes de la chapelle vous seront ouvertes donc ce samedi de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.
Ton allemand est particulièrement bon. Tu t'es entraînée, Mathilde ?
Oui, j'ai de la chance. J'ai un petit temps.
On l'a répété.
Exactement.
La Brockland & Geek revient à Fossé ce dimanche avec plus de 800 mètres carrés dédiés à la culture geek et rétro. Vous retrouverez des jeux vidéo, des figurines, des mangas et des objets collector sur place. Des activités sont aussi à prévoir, telles qu'une bourse d'échange, un concours de cosplay et des combats de blason. Attendez-vous donc à voir des super-héros, des Pokémon et autres figurines bien connues de la pop culture dans les allées. L'événement se tiendra donc au complexe phocéen dès 9h ce dimanche. Le prix d'entrée des billets est fixé à 3 euros.
Et si vous êtes plutôt nourriture que ordinateur, le salon du chocolat, des vins et de la gastronomie est de retour à Couture-sur-Loire ce week-end. Il réunit exposants et producteurs passionnés au programme dégustation, chasse aux œufs, spectacle de magie, exposition d'œufs décorés et restauration sur place le dimanche. L'événement se tiendra au manoir de la Poissonnière. Rendez-vous de 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche pour partager un moment festif et laisser place à votre gourmandise. Le prix d'entrée est fixé à 3 euros et est gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.
On va à la vallée de Ronsard. On vient de l'annoncer dans le programme donc, du Salon de la Gastronomie. La compagnie La Ruée vers l'autre vous invite à la représentation de leur spectacle Ébullition ce dimanche à 15h, donc au manoir de la Poissonnière. Proposé dans le cadre donc, du dispositif Festilésime 41, le spectacle de magie allie poésie, prouesse technique et défi. Les bulles géantes et leurs couleurs chatoyantes se fondent parfaitement avec la flore environnante, offrant un spectacle visuel saisissant. 1 euro symbolique vous sera demandé à l'entrée du spectacle.
Organisé en coprogrammation avec l'Hectare, la Halograin accueille la nouvelle production de Joris Lacoste ce soir à 20h. Alliant théâtre et danse, Nexus de l'Adoration imagine une nouvelle religion fictionnée, inclusive et ouverte qui embrasserait toutes les choses du monde. Le spectacle mêle culture traditionnelle et moderne. Les tarifs sont compris entre 8 et 24 euros. La réservation se fait sur le site de la Halograin.
La compagnie à compter d'aujourd'hui sera à l'espace 102 de Vendôme ce soir pour présenter leur spectacle Épatahouette. Ouais, je crois que c'est... Et patatahouette. Patatahouette. Ouais, faut bien le prononcer, ouais. Hein, pour le coup, voilà. Et patatahouette et patatra, l'histoire d'exodes successifs entre 1830 et 1962, de la Sicile à l'Algérie jusqu'à la France. À travers le destin de trois hommes, le spectacle souhaite faire résonner à nouveau la langue patatahouette. La soirée débutera donc à 19h. L'entrée se fait sur consommation et la sortie au chapeau. La réservation se fait par SMS au 06 33 54 17 26. La réservation donc est conseillée et évidemment le numéro de téléphone sera retrouvé sur le site de Studio Zef à la place du Shaker.
Le duo équipe de foot rouvre la programmation du club de la Chênée ce soir à 21h. Leur musique indie rock énergique allie noise, pop, garage et lofi. Entre spontanéité et intensité, leur composition puise dans les influences allant de Nirvana aux Beatles. Un espace de restauration tenu par le Train Vert vous sera proposé. La réservation d'une table est obligatoire. Elle se fait au 02 54 79 73 13. L'achat des billets pour le concert s'effectue sur le site du club de la Chênée. Les tarifs sont compris entre 8 et 10 euros. Le concert est gratuit pour les enfants et on écoute tout de suite le morceau Yes d'équipe de foot avant de recevoir notre invité.
A tout de suite, donc on écoute équipe de foot.
Thank you. something, a literal proper something. It was something it is. It ain't a stuff. Talk to my brother, he's older, he's smart. He asked me if I could name things with proper words made up of letters. I answered yes, 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 yes. I'm not hiding, I make it clearer, yes, 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 yes.
De retour en direct avec notre invitée Monica Santos de Zone I. Bonjour Monica.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes la cofondatrice donc de Zone I, qui est un lieu culturel dédié à l'image et à l'environnement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle au sein de Zone I ?
Eh ben, je suis la co-directrice et co-fondatrice, comme tu as bien dit, aux côtés de Matt Jacob, qui est photographe du collectif Tendance Floue. Et moi, je suis un peu multicasquette. Je suis commissaire d'expo, scénographe d'exposition, spécialisée dans la photographie et graphiste.
Ce projet, il est un petit peu particulier. Vous êtes au Moulin de la Fontaine, à Thorey-la-Rochette. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer l'histoire de ce lieu? Et qu'est-ce qui vous a attiré justement pour créer le projet là-bas ?
C'était en 2016, fin 2015. On habitait dans la région parisienne et on s'est questionné beaucoup sur notre position dans le monde à niveau de notre empreinte écologique, de comment vivre dans ce monde de la façon la plus saine possible, aussi par rapport à nos métiers. À Paris, ben, évidemment, il y a beaucoup de culture, c'est un peu sursaturé. Nous nous sommes mis en tête de quitter la ville pour questionner nos modes de vie et de créer un lieu et pour amener de la culture en milieu rural et un peu diversifier l'offre ailleurs que dans la grande ville. Et de petit à petit, on s'est installé à Montoire, sur le Loir, et on a continué à chercher. Et on ne savait pas trop exactement ce qu'on allait pouvoir faire dans ce lieu. On était assez conscients que c'était le lieu qui allait un peu dicter l'activité. On savait qu'on allait faire des choses autour de la photographie, qu'on voulait faire des résidences, qu'on voulait faire des expositions, mais on ne savait pas exactement jusqu'à quelle ampleur on allait pouvoir faire toutes ces choses-là. Et on est tombé sur le Moulin La Fontaine, qui est un moulin, qui est un grand site de 5 hectares au bord du Loir. Il y a deux moulins, d'ailleurs. Il y en a un du XVIIe siècle et un du XIXe siècle, et un ensemble bâtiments bâtiment, un corps de ferme. On est tombé amoureux aveuglément de ce site. C'était un coup de cœur. C'était un lieu assez compliqué parce que, comme beaucoup de moulins, il est sur une zone inondable. Et avec cette zone inondable, qui peut faire un peu peur, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans les zones inondables, à niveau de l'administration, c'était assez compliqué de prendre en charge ce site. Mais on a, comme je dis, on était un peu tombés amoureux aveuglement. On a beaucoup œuvré pour pouvoir transformer les moulins dans un lieu recevant du public et pouvoir ouvrir, du coup, en 2019, Zone I, du coup, qui vient évidemment de zone inondable. Mais notre projet artistique, c'est de transformer ce lieu dans une zone image, une zone incroyable, une zone infinie, inoubliable, intelligente, mais évidemment des fois un peu idiote et un peu ivre aussi des fois parce qu'on fait des événements festifs et pour rassembler plus grand nombre.
Bah en tout cas, j'adore les jeux de mots. Mais j'allais, oui, justement, vous demander, en fait, où est-ce que vous avez trouvé toute cette motivation quand on voit c'est un lieu magnifique. On parle de deux moulins, un qui date du XVIIe siècle, un qui date du XIXe, mais c'était énormément de travaux de restauration, zone inondable. Voilà, vous souhaitez partir de Paris, toute cette agitation. Là, on se lance dans de gros travaux. Vous avez parlé de coup de cœur. C'est vraiment ça qui vous a motivé à se dire on se lance dans des travaux qui vont durer des années, qui sont assez compliqués à réaliser.
Tout à fait. Comme je disais, on était un peu aveugle à tout ça. On n'a pas du tout fait un business plan. On n'a vraiment pas mesuré l'ampleur ni des travaux, ni du travail, etc. Mais on était très passionnés et on a été très accompagnés aussi par des bénévoles, par des passionnés aussi, par des gens qui ont vu l'importance de pouvoir amener de la culture en milieu rural, de pouvoir proposer des actions de qualité. On n'est pas les seuls, évidemment. On a eu la chance aussi de tomber, comme vous devez bien le savoir, au Studio ZEF. C'est une région extrêmement dynamique culturellement. Il y a énormément d'associations qui agissent pour la culture. Et du coup, en plus, on était bien accompagnés, bien reçus pour les travaux. On a eu la énorme chance avec notre architecte qu'on avait déjà commencé à restaurer les moulins. On a commencé par le moulin. Et les moulins, c'est entièrement dédié à l'association. On a eu la chance de gagner le loto du patrimoine. Du coup, la mission Stéphane Bern en 2019. On était vraiment très surpris parce que ça, c'est le genre de choses qui t'arrivent jamais à toi. C'est, en général, c'est aux autres que ça arrive. Et du coup, on a été élus site emblématique de la région Centre-Val-de-Loire et on a été accordé une somme assez conséquente pour pouvoir restaurer les deux moulins. Surtout le petit, qu'on appelle le petit moulin, le vieux, le plus vieux, qui était complètement en ruine. Il avait plus de toit et les deux passerelles, la roue et aussi la couverture du grand moulin. Et depuis, on peut du coup accueillir le public dans les bonnes conditions et pouvoir faire des expositions assez conséquentes dans grand moulin sur les deux étages et dans le petit moulin qui va vers les îles parce qu'il y a des îles aussi qu'on ouvre au public. Dans le petit moulin, maintenant, c'est plutôt des espaces de travail où on fait nos stages professionnels, les ateliers. Et là, c'est un espace qu'on va plutôt dédier aux résidences d'artistes. Voilà. Et après, la ferme à côté, c'était assez compliqué aussi. C'est pas une zone inondable, mais c'était bien inondé d'un énorme bazar parce que le propriétaire avant nous, c'était un espèce de brocanteur qui récupérait des matériaux de construction usagés. Il y en avait partout, partout, partout. On lui a dit de laisser parce qu'on voyait bien que c'était impossible de tout vider. Mais aussi, on voyait des choses qui étaient un peu, qui avaient l'air intéressantes. Du coup, on a beaucoup nettoyé. C'est pour ça qu'on s'appelle, j'ai un peu parlé la première partie de notre définition. C'est dédié à l'image de l'environnement. L'image, évidemment, c'est toutes ces expositions et toutes ces actions artistiques qu'on fait autour de la photographie. Et la deuxième partie, c'est le souci avec l'environnement. C'est plutôt justement tout un mode de vie où on est très soucieux de comment vivre plus sereinement et plus sainement dans ce monde. Et du coup, on fait beaucoup de réemploi. Nos expositions, elles sont éco-conçues. On essaie de faire tout en circuit court. Ou le plus possible, on a un potager, etc. Et c'est aussi la connaissance de l'environnement ici, géographiquement, la vallée du Loir, les artistes de la vallée du Loir et les gens de la vallée du Loir. Du coup, avec tous ces portes, fenêtres, volets, etc., on a eu l'idée de faire un labyrinthe. Et on a fait connaissance d'un artiste exceptionnel du coin qui s'appelle Jean-Philippe Monchien. Et ça a commencé une très belle aventure et une très belle amitié avec lui. Et on a fait ce labyrinthe de portes et de fenêtres qui est construit sur un champ d'un hectare. C'est un dédale où on peut pas se perdre, on se retrouve plutôt. Et ça a servi aussi de support d'exposition sur la mémoire de la vallée du Loir avec des vieilles photos anciennes qu'on a récupérées auprès de la population, des habitants d'ici. On a fait des expositions sur la jeunesse avec une photographe qui est venue en résidence qui a travaillé sur la jeunesse en milieu rural. Et aussi, cette année, on aura une autre exposition dans le labyrinthe.
Bah en tout cas, j'ai vu des images sur votre site internet. C'est assez impressionnant, donc je conseille à nos auditeurs d'aller voir. C'est assez magnifique ce que vous avez fait. On le voit, c'est un lieu donc, axé sur la photographie, sur l'art, beaucoup sur le partage et la rencontre. Dans ce processus, justement, il y a la grosse partie exposition. Donc, vous en organisez 4 chaque année de mai à novembre. Le programme 2026 est en train d'être préparé. Est-ce que vous pouvez nous le dévoiler ?
Tout à fait, tout à fait. On va le lancer bientôt. Cette année, parce qu'on ne fait pas toujours 4 expos, ça dépend des années de ce qu'on peut faire. Parce que comme vous voyez, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de médiation aussi, beaucoup d'ateliers en milieu scolaire et des stages et des ateliers ici, des stages professionnels, des stages pour des amateurs. Et cette année, par contre, c'est une belle année, une année ambitieuse. On fait 3 expositions. On fait dans le Grand Moulin et c'est très axé, c'est très local en fait. Cette
D'accord.
année, on a voulu vraiment ouvrir les portes aux photographes locaux qu'on a jamais fait. On a travaillé avec des artistes du coin par rapport plus à ce côté un peu land art, on peut dire, comme avec Jean-Philippe Monchien ou avec Robert Hébrard qui a fait une sculpture sur l'île. Mais on n'avait jamais exposé des photographes du coin. Et du coup, c'est en 2 parties, cette exposition. Il y a une grande partie dédiée à un photographe qui s'appelle Christian Louis, qui en fait, qui est décédé maintenant. Il est décédé assez jeune. Il était très proche de un peu l'école humaniste, on appelle ça, plutôt de Willy Ronis ou Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, un peu la mouvance des années 50, 60, 70. Mais il était très prolifique, mais il est décédé assez jeune et il était installé, pas ici dans ce coin-là, mais dans le centre-Val de Loire, près de Sancerre, au sud de la région. Et son archive a été retrouvée, il a été développé par un couple d'Anglais qui étaient des grands amis de Christian Louis avant qu'il décède. Et ils ont récupéré cette archive et ils l'ont travaillé, ils ont fait des publications. Et du coup, maintenant, ils ont tout donné au musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône. Et c'est un archive très important, très, très beau. Et du coup, on lui met à l'honneur et on fait une exposition en collaboration avec un autre lieu dédié à la photographie en centre-Val de Loire qui s'appelle la Maison Ligérienne de l'Image avec une association qui gère ça qui s'appelle Valimage. Du coup, c'est une collaboration des 2 sites autour de ce photographe, Christian Louis, avec des très belles images de noir et blanc, en noir et blanc des années 70, 80, 90, voilà. Ça, c'est la première partie. Et après, la deuxième partie, et là, c'est vraiment local. Il y a 5 photographes du coin, ou plus ou moins du coin, qui sont très présents à Zuni, qui nous accompagnent, qui sont passionnés de photos. Ils ne sont pas tous des photographes professionnels, mais ils sont tous... des grands amateurs de photographie. Et du coup, on leur accompagne pour faire une exposition collective. Du coup, il y a Il y a Benoît Lelon, avec un travail en noir et blanc, un peu sur les squats, un peu sur, sur un monde un peu alternatif, on peut dire. Il y a Thomas Ozou qui a fait une série de portraits pendant nos rencontres l'année dernière avec une un appareil photo qui est lui-même inventé, avec une optique attachée à une imprimante laser. Du coup, ça donne des portraits assez incroyables. Il y a aussi Anne Piégu, qui est une photographe basée à Tours, qui est une grosse fan de Zone I, qui nous accompagne et qui est très présente. Elle a réalisé une série sur la transformation de la campagne et la industrialisation et là, un peu le fait que les campagnes ils se vident de plus en plus. Il y a aussi Eric Zeziola, c'est un photographe parisien, mais qui s'est installé ici à Vendôme depuis 10 ans, je pense, maintenant, ou presque, qui travaille autour des animaux. Et il travaille avec des pièges photos qu'il va mettre dans la nature et qui capture des images assez incroyables des animaux la nuit ou le jour. Et le dernier, c'est Seba Lallemand, que tout le monde connaît plutôt pour ses peintures. Il travaille à la bombe. Il a fait pas mal d'affiches pour les locomotives. C'est très très beau ce qu'il fait. Mais là, on l'a demandé parce qu'il fait beaucoup de photos aussi. Et par contre, il nous a proposé quelque chose d'assez incroyable. En fait, c'est des photos, mais c'est pas lui qui les a pris. En fait, dans les années début des années 2000, il est tombé en amitié avec un sans domicile fixe à Paris, parce qu'il était à Paris à l'époque, et de fur et à mesure, il s'appelait Pierre, je crois, il lui a donné un appareil photo et il lui a acheté des films, parce que tout était en film à l'époque, il n'y avait pas des appareils numériques où ça commençait tout juste, et tous les X temps, il se donnait des rendez-vous c'est Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre lui donnait les films que Seba développait. Et du coup, ça a créé cette espèce d'échange pendant plusieurs années jusqu'à un moment que ça s'est arrêté. Du coup, il a récupéré des milliers et des milliers de photos de Jean-Pierre qui faisait de la photo dans les rues de Paris. Aux gens de passage, à ses amis SDF, et il se mettait en face du Fouquet et il faisait des photos de toutes les célébrités et tous les grands bourgeois et des femmes. C'est assez étonnant. Il y a des images incroyables et voilà. Et c'est quelqu'un qui n'était pas forcément photographe, mais qui a un vrai témoignage de la société de l'époque. Voilà. Et ça, du coup, ça va être côté moulin, dans le grand moulin, sur les îles, parce que Eric Zeziola avec ses animaux, on va le mettre dans la partie nature sur les îles. Et Anne, ça va être plutôt sur le jardin, sur des ballots de paille. On va utiliser les ballots de paille comme support d'exposition. Et de l'autre côté, du coup, dans le champ du labyrinthe, cette année, on fait une exposition dans le champ du labyrinthe. On n'avait pas fait l'année dernière. Et aussi le labyrinthe, parce que comme vous pouvez comprendre, il est en plein air. Du coup, il subit pas mal de toutes les aléas de la météo, la pluie, le vent, les inondations, parce que évidemment. Ça s'inonde quand même, ça s'inonde ici de temps en temps.
On a pu le voir, oui, ces derniers mois.
Oui, voilà, c'était assez haut. Et le labyrinthe, il était dans un lac, dans un étang. C'est très beau, en fait, quand ça s'inonde. Quand tu surpasses la peur et l'anxiété, il faut pas. C'est très, très beau, en fait. Il faut toujours voir
Le positif.
le positif. Voilà. Du coup, le labyrinthe, il commence à être un peu fatigué. Du coup, cette année, on a fait une grosse restauration. Du labyrinthe avec Jean-Fille et des bénévoles et aussi avec des étudiants du lycée agricole de Montoire qui sont venus nous donner des coups de main pour nettoyer tout ça. Et il est un peu transformé, le labyrinthe. Il est un peu différent. Et il y aura une exposition dédiée au temps libre. On fait partie d'une grosse commande nationale de Forum Vie Mobile. C'est un organisme qui étudie la mobilité en France. Ils ont fait une commande à des centres de photographie, en fait, à un réseau spécifique qui s'appelle le réseau Diagonal, qui rassemble des centres dédiés à la photographie dans toute la France, hors Île-de-France. Et nous, on ne fait pas partie de ce réseau-là, officiellement, mais comme il n'y en avait pas un centre
Val de Loire.
photographique en Centre-Val de Loire, du coup, ils nous ont fait appel, on les connaît très bien. C'est vraiment un réseau extraordinaire. Et du coup, nous, on participe en tant que représentants du Centre-Val de Loire. Et chaque centre a sélectionné un photographe qui est venu travailler sur une thématique concrète du temps libre. Nous, on a choisi Liz Arango, qui est une photographe espagnole, qui est basée à Paris et qui fait partie de l'agence Vue. Elle a travaillé sur les fêtes dans les caves, parce que, comme vous savez bien, il y a beaucoup de caves ici, en centre-ville de Loire et dans notre vallée. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces caves la nuit. Il y a, comme tout le monde connaît, le festival Gare à la Rochette, Charivari. Il y a le Zéro Dégresse qui n'est pas dans une cave, mais où il y a beaucoup de personnes au
Oui.
Roche-l'Évêque qui habitent dans des caves et qui aiment bien la fête, on va
On
dire.
connaît bien le lieu ici à Zef.
Du coup, voilà. Du coup, Lise, elle a travaillé sur cette thématique-là. Et on va exposer le travail qu'elle a fait, plus d'autres photographes qui ont travaillé sur la fête aussi, dans d'autres lieux de la France. Il y aura 4 photographes qui vont être exposés à l'extérieur du labyrinthe et dans une des salles dans le labyrinthe. Voilà.
Je pense que vous nous avez donné très envie d'être au mois de mai pour pouvoir commencer à découvrir toutes ces belles expositions. On arrive du coup malheureusement à la fin de l'interview parce qu'on a un petit timing assez restreint, mais c'était très intéressant. En tout cas, on peut vraiment saluer toute la diversité des œuvres mises en avant dans leur construction et dans leur représentation. Tous les liens par rapport à Zone I vont être à retrouver donc dans description du podcast. Est-ce que peut-être vous avez un dernier mot par rapport à ce lieu culturel que vous portez depuis quelques années et que vous avez créé?
Non, bah juste inviter tout le monde à l'inauguration de la saison. Du coup, c'est qui va être le 14 mai. Et pendant le week-end, il y aura des petites actions, des ateliers, des différentes activités à faire et la grosse soirée du 14 mai. Et aussi un autre temps fort qui est nos rencontres Images Environnement qui sont en septembre, le week-end du 11, 12, 13 septembre, avec aussi beaucoup de photos, de musique et plein de choses pour tout le monde. Parce que c'est aussi un lieu assez familial où les enfants, on peut venir en famille, entre amis, les professionnels, les amateurs de photographie et voilà, et pour être ensemble. Maintenant, c'est tellement important de sortir de chez soi et être ensemble et échanger les uns avec les autres.
Eh bah, merci Monica. J'ai aussi envie de vous dire merci d'avoir créé ce lieu qui est assez exceptionnel. On a pu l'entendre grâce à cette interview et j'ai pu le voir par rapport aux photos sur votre site internet. Nous, on va se quitter avec une pause musicale avant de reprendre l'agenda culturel. Merci beaucoup, Monica. Je pense qu'on peut se le dire entre nous et avec nos auditeurs. On se reverra au mois de mai.
Merci à vous et à très bientôt.
Au début, il n'y avait rien que des zéros, des uns. Mais ça démange dans les circuits, dans les lignes de la main. À la moitié d'une caresse, le métal brûlant s'éteint. J'ai tout mangé pour voir le vide, mais il n'y avait rien que des zéros, des uns. Que des signaux hurlants comme la vie qui commence. Polarités inversées et fusion dans l'immense. Au début, il n'y avait rien que des zéros, des uns. Sur des lignes parfaites, manquant de chien, manquant d'odeur, manquant de rien, menteur, foutu robot, manquant de cœur. Alors je t'en ai fait un. Au début, il n'y avait rien que des zéros, des uns. Et pas l'ombre d'un rebond, pas l'ombre d'un rebond. Sous ta poitrine bombée, façonnée par les coups fragiles, t'es passé sous les roues d'argile et je t'ai fait la peau. Mais quand t'es rentré dans l'arène, entre les louves et les sirènes, à quoi ça tient d'être humain? Au début, il n'y avait rien que des zéros, des uns. Des mémoires sans histoire, précipitant nos fins terriens. Ils chercheront ta tête, ils chasseront la bête. Tu n'y pourras plus rien que des zéros, des uns. Et pas l'ombre d'un rebond, pas l'ombre d'un rebond. Moi je suis resté là, tiraillé par la faim. Pourtant le ventre plein que de zéros, de uns. Mais quand t'es rentré dans l'arène, entre les louves et les sirènes, à quoi ça tient d'être humain? Regarde toi-même quand tu saignes, qu'est-ce qui coule au creux de tes reins? J'ai beau prier, je ne vois plus rien. Tiens bien le fil entre tes dents, dénudé sur le courant. Personne avant toi, personne avant, ne m'avait rendu aussi vivant. Dénudé sur le courant, personne avant toi, personne
vient donc d'écouter le morceau Rebond du groupe OCTC. OCTC qui se produira dans le jeudi 2 avril dans une proposition donc organisée par Culture du Cœur 41, Figure Libre et Cyclique qui s'associe pour proposer donc un ciné-concert. La projection d'un court-métrage réalisé de A à Z par des amateurs sera suivie d'un concert du groupe OCTC donc, qui a encadré la partie sonorisation de l'atelier. Alliant chansons, rap et électro, la musique de ce groupe est généreuse. OCTC vous immerge dans une poésie douce, plongée dans un flot incandescent de synthétiseurs. La soirée se tiendra au centre d'animation cyclique. Ce jeudi 2 avril à 19h, l'entrée est libre.
Les associations du planning familial et Nous Toutes 41 organisent en partenariat avec les Lobbies un ciné-débat ce soir. La projection du film La Maison des Femmes de Mélissa Godet sera suivie d'un temps d'échange. Le film retrace le combat d'une équipe qui se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. La séance au tarif de 6,90€ est à 20h30.
Le collectif Cartel 41 lance son premier événement festif de l'année ce samedi avec un open air dédié aux musiques électroniques. De 14h à 23h, le port de la Creusille se transforme en dance floor géant et vibrera au gré des sons électro, techno et house. Les groupes Cartel 41 donc, mais aussi Andy Mix et Tio se suivront sur scène. Un food truck sera présent sur place. L'événement est co-organisé par l'association Art d'Essence et c'est gratuit. Donc rendez-vous à la Creusille samedi après-midi.
Les enseignants du conservatoire de Blois Aglopolis sont de retour à la maison de Bégon ce samedi à 20h30 pour leur concert annuel. Ils reprendront des classiques de la musique funk de sa naissance à aujourd'hui. De James Brown à Bruno Mars, cette soirée festive et dansante sera courte sur un moment joyeux. L'entrée est gratuite mais les costumes à l'entrée sont conseillés.
Les élèves de l'école de musique de territoire vendômois donnent aussi rendez-vous donc pour un concert ce mercredi 1er avril au Minotaur pour leur concert de printemps. Ils vous feront découvrir leur travail réalisé tout au long de l'année, variant morceaux classiques et plein d'énergie. Ils promettent de partager un moment musical convivial. Le concert débute à 18h30 et l'entrée, là aussi, est gratuite donc au Minotaur à Vendôme.
Le chanteur Atomic Flav sera ce jeudi 2 avril au Château d'Eau pour la soirée Le Club. L'électro libre du groupe Jim Ballon propose des textes sincères. Situé quelque part entre l'électropop cool française et les musiques indées, il vous embarque à bord de ses morceaux fusées, évoluant au gré de ses pensées. Le concert gratuit débutera à 19h. Les portes du Château d'Eau vous seront ouvertes dès 18h30. Et on se quitte en écoutant son titre « J'avais oublié ».
Merci Mathilde. Donc toutes les informations sont à retrouver sur la page de podcast du Shaker. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Salut à tous et à toutes. Salut Mathilde.
Salut Thomas.
Je me suis fait toaster, ouais ça faisait longtemps. C'est la tempête de sable sur ma ville, j'ai senti son parfum. Et ça fait plaisir, sans souvenir, tout me revient. J'entends des gens crier, mais j'écoute R. J'ai pas l'habitude de voir du sable voler dans mes latitudes. J'ai pas de lunettes, je sors jamais du stud. Du coup j'en prends plein les yeux, j'en prends plein les cheveux. C'est sympa, c'est ma nostalgie, mais je suis indécis.
Je fais quoi?
C'est la golden hour, mais c'est la galère. Tombe une catastrophe climatique sur mon moment spécial. Et je devrais courir pour ma vie, mais je sais plus. Je me suis fait griller les idées. Ah là là, c'est dingue ce que cette odeur porte. Qu'elle peut chambouler 2025 bébé dans la salle de concert. Qu'il y a dans ma tête, ça fait tomber les murs. Et là je me rends compte que la rivière est là. Ça pourrait valoir le coup de s'y baigner.
restaient les bails. J'avais oublié cette essence qui me faisait craquer, me faisait tomber des nues, qui m'avait bien toasté la tête. Senteur de paille, de bougie, un truc un peu boisé. Quand j'y repense, que des trucs on peut brûler. Qu'est-ce que ça me faisait tomber des nues dans tout ce sable. J'ai perdu la tête. Sur ma ville, j'ai senti son parfum. J'avais oublié cette essence qui me faisait craquer, me faisait tomber des nues, qui m'avait bien toasté la tête. Senteur de paille, de bougie, d'un truc un peu boisé. Quand j'y repense, que des trucs on peut brûler. Qu'est-ce que ça me faisait tomber des nues dans tout ce sable. J'ai perdu la tête.